Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez une passion dans la vie? Une passion qui vous fait vibrer? Une passion qui... Vous seriez capable de parler pendant des heures à quelqu'un qui partage la même passion? Alors, ça peut être la musique, faire ou écouter de la musique. Ça peut être la cuisine, ça peut être le sport, on est en plein dans les Jeux Olympiques en ce moment. Ça peut être la danse, il y a plein d'autres choses, ça peut être les amis, passer du temps avec les amis. Emmanuel, lui, sa passion, c'est d'annoncer l'Évangile. Et ça ne date pas d'hier, puisqu'effectivement, eh bien, il y avait les apôtres, ils avaient une passion, cette passion qu'ils avaient, c'était effectivement de parler de Jésus, qu'ils ont connu. Les apôtres, donc, et on se rappelle, pour situer le contexte, que 3000 personnes s'étaient converties suite à la première prédication de l'apôtre Pierre à Jérusalem. 3000 personnes que le Seigneur a appelées. C'était suite à quoi? Suite à l'envoi du Saint-Esprit promis par le Père. Et effectivement, eh bien, suite à l'envoi du Saint-Esprit, Pierre a prêché. Et 3000 personnes se sont rajoutées à l'Église. Et donc, ils ont posé la question aux apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Et Pierre a répondu ceci en acte 2, 37-38. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'était la première prédication de Pierre. Et puis, un peu plus tard, c'est ce que Pascal a partagé la semaine dernière, donc... Pierre et Jean ont été utilisés par le Seigneur pour guérir un homme infirme de naissance. Et suite à cela, il y a une deuxième prédication de Pierre, suite à ce miracle. Et cette fois, c'était dans le temple. Et donc, Pierre a de nouveau lancé un appel similaire, hein, appel à la repentance et la conversion en Jésus. Je vous relis acte 3, versets 19 et 20, que Pierre donc, a donné à ses auditeurs. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Deuxième prédication de Pierre. Jusqu'à là, tout allait bien. L'Église grandit. Mais attention, quand tout va bien, l'opposition de Satan n'est pas loin. Et il ne faut surtout pas s'en étonner. Une œuvre aussi puissante qu'une œuvre aussi puissante suscite l'opposition. Donc c'est là où on s'est arrêté. La première opposition qui va arriver pour les apôtres, donc en acte, c'est là où je vais reprendre la lecture, acte chapitre 4, et je lirai du verset 1 au verset 22. Jacques chapitre 4, du verset 1 au verset 22, je vais prier. Seigneur, merci encore de nous avoir laissé ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, et de la laisser rentrer dans nous, de la laisser nous transformer, agir, Seigneur, pour que ton plan s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Plan de salut, plan aussi pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui nous entourent, Seigneur, sans peur, sans crainte. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs, nous mettons tout souci, tout ce qui occupe notre esprit inutilement, à tes pieds, Jésus. Amen. Amen. Acte chapitre 4. Tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, excédés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Verset 14. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dirent « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, pour trouver le moyen de les punir, à cause du peuple. Tous en effet glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Première opposition donc qui arrive pour les apôtres, avec des efforts des chefs religieux pour arrêter, stopper la prédication de l'évangile. Mais la vérité que je vois dans ce passage, c'est que les efforts pour arrêter la prédication de l'évangile et la croissance de l'Église sont vains. Tous les efforts pour arrêter la prédication de l'Évangile et la croissance de l'Église sont vains, inutiles. Et c'est ce que je verrai donc en deux points. Premièrement, nous verrons que la prédication de l'Évangile, elle suscite quoi ? Elle suscite à la fois la croissance de l'Église et l'opposition. Donc il ne faut pas s'en étonner. Les deux vont se suivre. Et mon deuxième point, c'est l'inverse. C'est que l'opposition suscite quoi ? L'opposition suscite la prédication de l'Évangile. C'est ce que nous voyons dans ce texte-là. C'est pourquoi on ne peut pas arrêter la prédication de l'Évangile et la croissance de l'Église. Donc, premier point, voyons la prédication de l'Évangile qui suscite à la fois la croissance de l'Église et aussi l'opposition. Donc, première opposition contre les disciples depuis l'ascension de Jésus de la part des chefs religieux juifs. Le même message qui ne change pas, qui ne change pas encore jusqu'à aujourd'hui, le message de l'évangile de Jésus-Christ qui demande toujours la même réponse. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Et face à ce même message, il y a deux réactions complètement opposées. Le salut des uns, qui l'acceptent, qui croient, et l'opposition, l'endurcissement des autres, ici les chefs religieux juifs, les chefs religieux qui sont bien conscients de ce qu'ils font, hein. Ils connaissent pourtant la vérité, mais ils la rejettent. Et ils rejettent la justice divine. Versets 1 et 2. Les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, ils sont excédés de ce que Pierre et Jean enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts, ils ne supportent pas d'entendre ça. Pourtant, c'est le centre du message des apôtres. La résurrection de Jésus est au centre du message des apôtres. Et les Sadducéens, c'était une frange religieuse qui niait à la fois la vie après la mort, et par voie de conséquence, ils niaient la résurrection des morts. Ils n'y croyaient pas. Alors on comprend qu'ils étaient excédés quand les apôtres, parlaient de la résurrection de Jésus. Ils étaient d'autant plus excédés que la guérison de l'infirme était la preuve visible que Jésus était ressuscité. Bien vivant, la guérison de l'infirme. Bien sûr, s'il n'y avait pas de résurrection, ça en arrangerait plus d'un. Plus d'un qui se dise, mangeons et buvons, parce que demain nous allons mourir. Mais non, ce n'est pas le cas. Alors, les sadducéens et les chefs religieux se mettent ensemble contre les disciples, et ils se seraient contredits s'ils n'avaient pas manifesté cette opposition envers les disciples comme ils l'avaient manifesté envers Jésus, ils se seraient contredits. Donc, les voilà à nouveau à la charge, cette fois, non plus envers Jésus, mais envers les apôtres. Qui n'ont pas ménagé. Les apôtres qui apportent le même message que leur maître qu'ils ont condamné, que les chefs religieux ont condamné. Alors, évidemment, ils s'en prennent à eux aussi. Et clairement, cette opposition de la part des mêmes chefs religieux, clairement, ça montre qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de se repentir Pourquoi ? Parce que c'est leur orgueil qui les empêche de reconnaître leur tort. Et quel tort en crucifiant le Seigneur ? Mais ils n'ont pas répondu à l'appel de se repentir. Et ils confirment cette vérité, que de ne pas se repentir entraîne de s'enfoncer encore plus dans son péché et de s'endurcir. C'est ce qui se passe pour les chefs religieux. Ils ne se repentent pas, ils persistent dans leur orgueil et ils vont s'enfoncer encore plus dans leur péché et ils vont s'endurcir encore plus. Donc ils mettent la main sur Pierre et Jean et ils vont les faire mettre aux arrêts jusqu'au lendemain, hein, c'était la nuit. Jésus n'a pas eu cette opportunité, ils l'ont traîné au tribunal la nuit, ce que leur interdisait la loi aux chefs religieux. Mais là, ils vont attendre jusqu'au matin pour comparaître devant le Sanhédrin qui était le conseil religieux juif. Et là, on se dit, mais mince, tout allait si bien. Mais regardez à cet endroit du texte. C'est encouragement pour nous tous, au verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Comme pour nous dire, n'ayez pas peur. Il y a de l'opposition, c'est normal. Et ça n'empêchera pas la prédication de l'évangile, ni la croissance de l'Église. On est passé de 3 000 à 5 000 personnes. C'est plutôt quand il n'y a pas d'opposition qu'il faut s'inquiéter. Quand tout est tranquille. On n'est pas un peu trop en train de dormir, parfois. Et tout au long du livre des Actes, eh bien, c'est flagrant, ça va nous apparaître, tout au long du livre des Actes, l'Église va grandir et la croissance de l'Église sera accompagnée d'opposition. Croissance, opposition. Croissance, encore opposition. Et l'opposition, croissance. On ne peut pas stopper la prédication de l'Évangile ni la croissance de l'Église. Le lendemain, donc voilà Pierre et Jean qui comparaissent devant le conseil religieux juif, qui est composé du souverain sacrificateur Anne, de son gendre, Caïphe, les anciens et les scribes. C'est-à-dire le même conseil religieux, le même Sanhédrin qui a fait condamner Jésus. Ce sont les mêmes personnes qui a fait condamner Jésus à la crucifixion. Et là, on a l'impression que on revit les choses qu'ont vécues Jésus. On a l'impression de revivre le procès de Jésus, sauf que là, ce n'est pas Jésus, ce sont ses apôtres qui sont mis en accusation. Par les chefs religieux qui sont déterminés à lui faire taire. Mais là, ils vont se rendre compte qu'en voulant les faire taire, ils vont leur donner une occasion en or, une de plus, de quoi faire, de témoigner pour Jésus. On ne peut pas stopper la prédication de l'Évangile ni la croissance de l'Église. Pourquoi ? Parce que cela vient de Dieu. Alors voyons le deuxième point. L'opposition suscite la prédication de l'Évangile. Prédication de l'Évangile par l'apôtre Pierre. De nouveau. Donc le procès commence par une question des chefs religieux. Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? Verset 7. Par quelle puissance ? Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est le même mot puissance, dunamis, si je me rappelle bien en grec, qui est utilisé par Jésus en Acte 1:8, lorsque Jésus dit aux disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Les chefs religieux, sans le savoir, ils sont en train de confirmer la parole de Jésus. C'est une puissance. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les apôtres ont guéri cet infirme. Et donc, eh bien, Pierre, rempli du Saint-Esprit, nous dit chapitre 4, verset 8, c'est rempli du Saint-Esprit que Pierre va répondre aux chefs religieux, et c'est là qu'il va leur répondre avec sa troisième prédication. Il va prêcher publiquement à Jérusalem pour la troisième fois, cette fois devant les chefs religieux. Et Pierre, il ne se dérobe pas. Il a changé, Pierre. Alors Pierre, il va commencer par mettre les chefs religieux en face d'eux-mêmes. Parce que quand même, il s'est passé une bonne chose. Un homme a été guéri. Mais les chefs religieux sont mécontents. Ils sont mécontents pourquoi ? Pour un bienfait. Qu'ils ne peuvent pas nier, parce qu'ils l'ont sous les yeux, l'infirme est dans le temple, sa guérison. Ils ne peuvent pas nier. Cet infirme qui était depuis infirme depuis sa naissance, qui mendie devant le temple, qui était mendiant à la porte du temple. Alors au lieu de se réjouir de sa guérison miraculeuse, au lieu de rendre gloire à Dieu. Ce qu'ont fait les apôtres, ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils ont guéri l'infirme. Au lieu de se réjouir de rendre gloire à Dieu, et le peuple aussi avait rendu gloire à Dieu. Non, eux, ils ont persisté dans leur opposition. Ils ont accusé Pierre, pourquoi ? Pour avoir fait le bien. Mais il n'y a pas de mal à faire du bien. Ça semble tellement évident. Il n'y a pas de mal à faire du bien. Et Pierre, là, il leur annonce la nouvelle foudroyante, que c'est par le nom de Jésus que l'homme a été guéri et se présente en bonne santé devant eux. Ce même Jésus que eux ont fait crucifier, ont crucifié, ce que dit Pierre, hein, et que Dieu avait ressuscité d'entre les morts, verset 10. Voilà, les chefs religieux ont leur réponse. Voilà par quelle puissance et par quel nom l'infirme a été guéri. C'est par le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Encore aujourd'hui, et il le sera toujours. Quelle différence chez Pierre, depuis son reniement. Quelle différence. Avec quelle assurance Pierre n'hésite pas à parler de ce qui suscite l'exaspération des Sadducéens. Mais Pierre, il remet ça. Il va parler avec assurance devant ceux qui sont opposés à la résurrection. Avec quelle assurance? Devant tous ceux qui sont opposés à la résurrection, qui ne veulent pas entendre parler de la résurrection. Et là, on commence à voir leur cœur à ces chefs religieux. Parce que tout de même, ils ne croient pas à la résurrection. Mais si vraiment ils pensaient que Jésus était resté mort parce qu'ils ne croient pas à la résurrection, alors pourquoi un tel acharnement envers les disciples? Pourquoi une telle opposition devant les disciples? Ils manifestent manifestement leur mauvaise foi. Parce que les disciples prêchent aussi la résurrection. Mais clairement, ils refusent. Ils ont des yeux, ils voient l'infirme, ils refusent de se rendre à l'évidence. Que c'est parce que Jésus est ressuscité que l'infirme a été guéri. Et vous vous rappelez, l'apôtre Pierre, dans sa prédication précédente, en acte 3, verset 17, il leur avait quand même tendu la perche, on peut dire en leur trouvant une excuse. Il avait dit qu'ils avaient agi par ignorance, vous, le peuple, et les chefs du peuple. Ça n'a servi à rien. Ils refusent cette perche tendue. Ils refusent de se repentir. Et clairement, les mobiles de leur cœur sont mis au grand jour. Ils persistent dans leur mauvaise foi, dans leur acharnement, dans leur endurcissement. Et clairement, ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Vous connaissez cette image que si un œuf tombe sur une pierre, il va se casser. Si c'est la pierre qui va tomber sur l'œuf, il va se casser. Eh bien, Jésus est une pierre. Et quelle pierre? Quelle pierre? Il est la pierre d'angle. Il est la pierre choisie, précieuse, qui soutient toute l'Église. L'Église, c'est l'édifice des croyants. Et cette même pierre, qui est la pierre angulaire pour les croyants, elle est aussi une pierre d'achoppement. La même pierre, une pierre d'achoppement pour les pharisiens, les sadducéens, pour tous les chefs religieux et pour tous les incroyants qui persistent dans leur incrédulité. Et Pierre, il va citer le psaume 118, verset 22. Pierre va citer l'Écriture. C'est un passage que Pascal a lu ce matin, qu'on trouve dans la première épître de Pierre, en chapitre 2, versets 6 à 8, et je vous le relis. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et Jésus avait aussi cité le psaume 118, verset 22. Cette pierre, voici ce qu'il a dit Jésus en Matthieu, chapitre 21, verset 42 à 44. Jésus leur dit, donc aux pharisiens, n'avez-vous jamais vu dans l'Écriture la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il ne faut pas le voir, tout simplement. tous ceux qui s'opposent à Jésus de façon si violente. Et donc l'Écriture, Pierre a cité l'Écriture devant les chefs religieux, reprenant donc les paroles du psaume que Jésus a reprises et que lui-même reprendra dans sa première épître. Non, clairement, il n'y a pas de neutralité. Soit on croit en Jésus avec un grand « Amen » et il devient notre sauveur quand on accepte son cadeau. Il devient notre sécurité, il est notre rocher. Soit les incroyants qui rejettent Jésus, qui combattent Jésus, eh bien, ils vont se briser sur lui. Il n'y a pas de neutralité. Et Pierre va encore le confirmer avec le verset 12, lorsqu'il dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom donné parmi les hommes. Ça veut dire que le salut nous est donné d'en haut. Il est offert, il est gratuit. Et ceux qui le rejettent, rejettent le plus beau cadeau que Dieu fait à l'humanité. Le salut nous est donné. Ça veut dire qu'on ne peut pas se le fabriquer. On ne peut pas se donner les conditions nous-mêmes au salut. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les pharisiens et les sadducéens? Ils voulaient En fait, ils ne recherchaient même pas le salut, ils recherchaient la gloire des hommes. En faisant croire qu'ils suivaient scrupuleusement la loi. Les chefs religieux ont été frappés par l'assurance de Pierre et Jean. Ça les a étonnés de voir Pierre et Jean avec une telle assurance. Et cette puissance, elle constitue une autre preuve de la résurrection. Raison de plus pour les exceller encore davantage. Pourquoi ? C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rien de moins. C'est la même puissance qui a guéri l'infirme, qui a rendu la santé à l'infirme. C'est la même puissance qui ressuscitera nos corps de croyants au dernier jour. Selon ce que Paul écrira, je vous cite Romains 8, verset 11. Et si, Romains 8, 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est cette puissance, c'est celle du Saint-Esprit. La même qui a ressuscité Jésus, qui a guéri l'infirme, qui nous ressuscitera au dernier jour. Et c'est avec cette même puissance que Pierre a prêché avec tant d'assurance. C'est la même puissance. Alors effectivement, voilà de quoi étonner les chefs religieux. Et voilà de quoi les étonner d'autant plus qu'ils connaissaient Pierre et Jean. Ils les connaissaient pour avoir été avec Jésus. Et ils savaient que c'était des gens du peuple, ordinaires, sans instruction, verset 13. Sans instruction, qui sont quand même capables de citer l'Écriture. Et ça, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas, les chefs religieux, que des petits gens sans instruction enseignent le peuple. Parce qu'ils considéraient que c'était leur privilège à eux. Mais non. La connaissance des Écritures, elle n'est pas réservée à une hiérarchie, comme c'est longtemps resté le cas par le passé dans l'histoire de l'Église. Non. La connaissance des Écritures, elle est pour tous. C'est ce que Dieu veut. Alors oui, les pharisiens, on ne peut pas le dire autrement, ils regardaient les autres, les gens du peuple, ils les regardaient de haut. Mais j'ai lu récemment, et ça semble tellement évident, mais pourtant c'est tellement vrai, que à force de regarder les gens de haut, on regarde en bas sur la terre. Mais on oublie de regarder en haut. À force de regarder les gens de haut, on regarde le bas peuple, mais on oublie l'essentiel. On oublie de regarder en haut, vers le Seigneur, qui seul peut sauver. Et c'est ce qui caractérisait les pharisiens et les sadducéens. En fait, les pharisiens et les sadducéens pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Ils ne recherchaient même pas le salut. C'est pourquoi ils ne regardaient pas en haut, mais ils regardaient le haut, les autres, en bas sur la terre. En fait, ils comptaient sur leur propre religion, leur propre observance, non pas pour être sauvés, mais pour être vus des hommes. Parce qu'ils recherchaient quoi? Ils recherchaient la gloire des hommes. Et Jésus le dit très clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 44. Lorsqu'il s'adresse à eux, justement, voici ce qu'il leur dit. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Et Jésus avait mis en garde ses disciples contre les pharisiens et les sadducéens. Pourtant, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'ils connaissaient très bien l'Écriture. Et Jésus lui-même le dit. Il dit, en Matthieu 16, verset 6, en s'adressant à ses disciples, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et en Jean 5, verset 10, 39, en s'adressant cette fois aux chefs religieux, il leur dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » C'est surprenant parce qu'ils connaissaient les Écritures. Les pharisiens, ils étaient plongés dans les Écritures. Alors pourquoi une telle opposition contre les disciples qui prêchent l'Écriture? Jésus répond très clairement. Je poursuis le verset Jean 5, 39 avec et jusqu'au verset 40 dans l'évangile de Jean, Jean 5, 39, 40. Je reprends le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Clairement, ils ne regardaient pas en haut les pharisiens. Ah, ils regardaient l'Écriture. Ils pensaient avoir en elle la vie éternelle, sauf que ils ne voyaient pas celui sur qui pointe l'Écriture. Et d'où cette contradiction. On peut très bien connaître l'Écriture sans vouloir venir à Jésus dans la repentance et dans la foi pour être sauvé de ses péchés. Connaître l'Écriture ne suffit pas. Jésus le dit. L'important pour être sauvé, c'est quoi? De venir à lui, dans la repentance et dans la foi. Il y a une illustration que j'ai trouvée encore récemment et que je trouve très, très parlante aussi. C'est un auteur qui s'appelle C.S. Lewis, hein, qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, au XXe siècle. Il a écrit beaucoup des choses connues comme les chroniques de Narnia. Enfin, voilà. Donc il était chrétien. Voici une illustration qu'il utilise justement pour parler de cette manière de lire les Écritures. Vous êtes dans une pièce sombre, les volets sont fermés, le soleil brille à l'extérieur, les volets sont fermés, mais il laisse rentrer un mince filet de lumière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous voyez le filet de lumière qui arrive à pénétrer entre les volets. Et à travers ce filet de lumière, vous arrivez à voir les fines particules de poussière. Vous savez que vous voyez les particules de poussière à ce filet. Et puis, si vous vous rapprochez des volets, de la fente des volets, vous regardez par la fente, et là, vous voyez tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez la rue, vous voyez les arbres, vous voyez le soleil, vous voyez très clairement. Les pharisiens et les sadducéens lisaient la Bible comme s'ils regardaient ce mince filet de lumière dans l'obscurité, sans vouloir aller plus loin, sans se rapprocher des volets, sans voir la lumière sur quoi toute la Bible pointe, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le seul salut qui soit donné, le seul moyen de salut qui soit donné parmi les hommes. Alors, ils sondaient les Écritures. Mais ils sondaient les Écritures pour les tirer à leur avantage. Et d'ailleurs, ils cherchaient à se justifier. Et puisque une preuve qu'ils manipulaient l'Écriture, c'est que les sadducéens, ils retranchaient de l'Écriture ce qui les dérangeait. Et notamment, qu'est-ce qui les dérangeait? La résurrection des morts, la vie après la mort. Les sadducéens retranchaient de l'Écriture. Les pharisiens, eux, c'était au contraire. Ils rajoutaient à l'Écriture la tradition des hommes. Donc ils manipulaient les Écritures de manière à la, comme on peut l'expression, à tirer la couverture sur soi, à ceux qui cherchaient à se justifier. Résultat, par leur manière d'étudier les Écritures, en la manipulant, eh bien, ils arrivaient à une conclusion radicalement opposé au message de la Bible, le message de la Bible qui est centré sur Jésus. D'où leur rejet de Jésus. Ils ont rejeté celui sur qui toute la Bible pointe, en se plongeant dans la Bible, cette contradiction. Mais il faut bien se mettre à l'évidence. La présence dans le temple de l'infirme guéri, il le voit, il n'est pas loin, il le voit. Eh bien, rien qu'en le voyant, ils n'ont rien à répliquer à l'apôtre Pierre. Pierre, ce gars sans instruction qui connaît la Bible, verset 14, ils n'ont rien à répliquer à Pierre. Alors, eh bien là, comme ils se sentent coincés, eh bien, ils vont délibérer. Ils vont se regrouper. De quoi vont-ils parler? Ils ne vont pas parler de la résurrection. Parce que l'évidence, elle est là. C'est par la résurrection de Jésus que l'infirme a été guéri. Ils vont discuter sur quel sort réserver aux apôtres. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas nier la guérison de cet homme. Le texte nous dit qu'il a 40 ans. 40 ans. Et nous savons, le chapitre 3 nous dit que l'infirme était infirme de naissance, depuis sa naissance. Ça fait 40 ans qu'il était infirme. Tout le monde le connaissait. Il était à la porte du temple. Tout le monde le connaissait. Et le peuple a vu sa guérison et a rendu gloire à Dieu. Et les chefs religieux ne savent rien, donc ils sont coincés. Ils reconnaissaient qu'ils ne peuvent pas nier la guérison de cet homme, que tout le monde connaissait. Alors ils ne peuvent pas non plus punir les apôtres pour un bienfait de l'avoir guéri, même si c'est Dieu qui a guéri l'infirme. Au risque d'avoir tout le peuple sur le dos, parce que le peuple, lui, a rendu gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui reste aux chefs religieux? À court d'arguments, il ne reste plus que les menaces et l'intimidation. Ils interdisent absolument aux apôtres, avec menace, de parler à qui que ce soit en ce nom-là, le nom de Jésus. Verset 17. Et ça, clairement, c'est la ruse du diable, de procéder par la peur, par l'intimidation. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir peur? Moi, oui. Mais ce texte-là est là pour nous dire, n'ayez pas peur. Amen. Jésus est au contrôle. Amen. Il a reçu tout pouvoir parce qu'il est ressuscité. Et ces textes sont là pour nous fortifier. Tous les efforts des chefs religieux pour faire taire les apôtres et arrêter la progression de l'évangile et par voie de conséquence la croissance de l'Église, tous ces efforts-là sont vains. Pour la raison suffisante que les disciples, les apôtres, ils ont reçu leur appel et leur mission de Dieu. Leur vocation leur a imposé de témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Mais pas seulement, c'était pas seulement une obligation. Parce que ça brûlait en eux, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Ils ne pouvaient pas. Et regardez, c'est très intéressant, le verset 16 nous dit que les chefs religieux disent qu'ils ne peuvent pas nier ce qu'ils voient, c'est-à-dire l'infirme guéri. Ils ne peuvent pas. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas, eh bien, ils devraient comprendre que les apôtres, lorsqu'ils disent que eux non plus, ils ne peuvent pas ne pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont connu Jésus en chair. Les chefs religieux devraient comprendre. Ils ne peuvent pas nier l'évidence. L'infirme a été guéri. Alors ils devraient comprendre que les apôtres ne peuvent pas ne pas parler. Ils ne peuvent pas, c'est plus fort qu'eux, ne peuvent pas parler de Jésus. Alors les apôtres choisiront d'obéir à la justice de Dieu. Parce que sinon, s'ils avaient fait le jeu des pharisiens, ça ne serait pas juste devant Dieu. Ça serait deux poids, deux mesures. Ça ne serait pas juste, ça ne serait pas la vérité. Les apôtres choisiront d'obéir à la justice de Dieu plutôt qu'à la justice bancale des chefs religieux. De toute façon, la parole en eux est comme un feu brûlant qu'ils ne peuvent pas contenir. Il y avait quelqu'un, c'était l'ancienne alliance, qui avait déjà vécu cela. C'était le prophète Jérémie, lorsqu'il a dit, malgré toute l'opposition qu'il y avait autour de lui, il dit ceci, Jérémie 20, verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, je ne le puis. » Et ce n'est pas vrai seulement pour les apôtres ou pour Jérémie, maintenant c'est vrai pour nous, enfants de Dieu qui avons reçu le Saint-Esprit. nous qui avons cru en Jésus. C'est pareil. Pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, si nous le laissons faire. Parce que c'est possible aussi d'éteindre l'Esprit. Ça, c'est possible. Mais si nous le laissons faire, eh bien, ça sera un feu qui va brûler en nous. Et on ne pourra pas se taire. Et donc ça, c'est un encouragement pour nous à témoigner. Si vous n'êtes pas à l'aise pour parler en public ou en privé à quelqu'un de Jésus, laissez le Saint-Esprit. Demandez de l'aide au Seigneur, bien sûr. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Suscitez des occasions. Demandez-lui des occasions, il y en aura. À coup sûr. Des occasions de témoigner. Et peut-être vous avez essayé de témoigner devant quelqu'un et puis vous vous trouvez à court d'arguments. Parce que clairement, la personne que vous avez en face de vous, elle a très bien compris, mais elle ne veut pas. Dans ce cas-là, il ne faut pas insister. Il faut la laisser au Seigneur, prier pour elle. Si vous vous trouvez à court d'arguments devant quelqu'un même qui veut vous déstabiliser, et ça m'est arrivé hein, parfois, de discuter avec quelqu'un, je ne sais plus quoi dire. Eh bien, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Voilà, j'avais dit ce que j'avais à dire. Mais rappelons-nous que si on est à court d'arguments, le meilleur témoignage, c'est une vie transformée par le Seigneur. Une vie qui parle d'elle-même. Si vous avez le Seigneur dans votre cœur, votre vie, elle est en cours de transformation. Pour être de plus en plus à sa gloire, si vous le laissez faire, bien sûr. Pas d'inquiétude, votre vie parlera d'elle-même. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais les gens en face de vous, ils vont voir que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Le Seigneur ne vient pas accepter. Une vie transformée. Il affirme, on ne peut pas le dire autrement, il a eu une vie transformée. Il a été guéri physiquement. Et il était devant les chefs religieux. Mais déjà, de donner son cœur au Seigneur, c'est déjà un miracle. D'avoir une vie transformée par le Seigneur, c'est déjà un miracle. C'était intéressant parce qu'il y a deux mots qui sont traduits différemment, en tout cas dans ma version. Pour l'infirme, au verset 9, c'est le mot qui est traduit par guéri, donc pour l'infirme. Et le mot grec qui est utilisé pour traduit par guéri, il est traduit par sauvé au verset 12. C'est le même mot, guéri et sauvé. Alors, aujourd'hui, quelqu'un, quel qu'il soit, qu'il soit guéri ou pas, pardon, qu'il soit infirme ou pas, mais qu'il reconnaît Jésus comme son sauveur et son Seigneur, infirme ou pas, il est guéri de ses péchés. Il est en processus de transformation. Il est guéri, pardonné de ses péchés. Et il est sauvé instantanément, même s'il n'est pas guéri physiquement, si c'est le cas d'un infirme, même si la guérison ne se voit pas. Mais la guérison physique, elle aura lieu. Elle aura lieu certainement, pas forcément dans cette vie, même si Dieu peut guérir, quand il veut, où il veut, qui il veut, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait par l'apôtre Pierre, Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Mais même s'il choisit de ne pas le faire, la guérison physique aura lieu certainement à la résurrection. Mais déjà, quelqu'un qui accepte le Seigneur est guéri.
Amen.
Le péché n'est plus son maître. Les chefs religieux avaient reconnu Pierre et Jean pour avoir été avec Jésus, verset 13. Ils l'ont reconnu. Eux, ils ont vécu avec Jésus. Et bien, c'est pareil pour vous. Vous serez connus pour être avec Jésus si vous vivez en étroite communion avec lui. Et ça va se voir. Que vous vous en rendiez compte ou pas, ça se verra. Ça se verra même par ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus ou de la résurrection. Si vous vivez en étroite communion avec le Seigneur, si vous demeurez en lui, ce que Jésus veut, c'est que nous demeurons en lui. Donc ne nous inquiétons pas. Parfois on ne se sent pas à la hauteur pour témoigner, mais Pierre et Jean, c'était des gens ordinaires. Et puis, eh bien, notre vie parle d'elle-même si vous n'êtes pas à l'aise pour parler, mais quand même, soyez prêts. L'apôtre lui-même, l'apôtre Pierre, il dira dans sa première épître, si un jour on vous demande, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres, pourquoi tu es différent, au bout d'un moment, il faut arrêter de se taire. parce que sinon ça voudrait dire que ben, on garde la gloire pour soi. Mais Pierre dira en 1 Pierre 3,15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Viendra un moment où on ne peut plus se taire. Il faut dire pourquoi. Qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est Jésus. Mais déjà, votre vie parle d'elle-même. Si vous laissez faire, Dieu, transformez-vous dans vos vies. Une autre facette encore du témoignage, et je termine par celle-là. Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fait du bien. Par la puissance de Jésus, ils ont guéri un infirme, c'était une guérison. On peut aussi faire du bien en visitant des malades, en parlant à des personnes qui n'ont plus d'espoir. On est là sur ce thème-là que d'être tous des pécheurs d'hommes, ce que Jésus veut faire de nous, aller sortir de notre zone de confort, eh bien, notre témoignage, c'est aussi de faire le bien. Et le même Pierre, il dira ceci, en 1 Pierre 3,13, il a dit ceci, c'était un peu avant le verset que je vous ai cité. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Amen. Je vais prier. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ces récits qui nous fortifient, qui nous encouragent, Seigneur, à ne pas être timides, Seigneur. Mais tu nous prends tel que nous sommes, Seigneur. Tu as changé l'apôtre Pierre. Tu veux aussi nous transformer, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que c'est toi qui agis en nous. Tu as agi à travers l'apôtre Pierre. Nous voulons te laisser agir. Reconnaître aussi les occasions que tu mets devant nous, Seigneur, d'apporter ta parole aux gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, il y en a aussi, il y a des collègues de travail qui savent que, pour certains, qu'il y a des chrétiens dans le service, Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui sont dans un environnement non chrétien, mais Seigneur, pour que leur témoignage brille devant les autres. Et Seigneur, que nous soyons toujours prêts, Seigneur, à ouvrir la bouche, à répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Seigneur, nous avons besoin de toi, et c'est en regardant à toi, Seigneur, que nous voulons te laisser faire, Seigneur. Par la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen.